Ah, des fermes.
Bah, des arbres.
Des fermes.
Et des arbres.
L'émission qui parle d'agriculture
et de forêt.
Venez découvrir
des initiatives,
des réflexions,
des actions
qui se font chez nous
et près de chez nous. Et c'est sans langue de bois
sur Radio Bartas 107.0.
Et bonjour, nous sommes donc sur Radio Bartas sur la quatrième émission de Des fermes et des arbres. Bonjour François.
Bonjour Nathalie.
Alors aujourd'hui, nous avons deux sujets à l'ordre du jour. Un sujet qui va parler de trufficulture, qui lie du coup agriculture et forêt. Et un deuxième sujet, François, sur...
On va rester un petit peu dans l'actualité récente, puisqu'on va parler des effets du changement climatique sur l'agriculture et la forêt, notamment avec une présentation d'une étude récente destinée à présenter un état des lieux du changement climatique et des perspectives possibles.
Très bien. On commence tout d'abord par le premier sujet qui est la trufficulture. Et pour cela, j'accueille donc Océane Ferland. Bonjour Océane.
Bonjour Nathalie.
Océane, tu es en stage à la petite commune de Florac Sud de Lozère. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton travail ?
Oui, donc l'objectif de ce stage est de faire un bilan des parcelles trufficoles sur un secteur afin de mettre en évidence les freins et les leviers de la trufficulture sur le territoire. Pour cela, j'ai créé un questionnaire à l'intention des trufficulteurs afin de connaître la manière dont ils gèrent leurs parcelles. Je vais donc leur poser des questions sur leur terrain, leur production, le mode de culture, est-ce qu'ils travaillent leur sol, etc. Le bilan de ces questionnaires me permettra de faire une étude que je présenterai à la fin de mon BTS gestion forestière pour le valider. Ce stage est aussi réalisé en partenariat avec le syndicat des trufficulteurs lozériens.
D'accord, très bien. Et peut-être que tu peux nous présenter ce que c'est que la trufficulture et puis qu'est-ce que c'est qu'une truffière par exemple ?
Donc la trufficulture est la manière dont on cultive la truffe. Elle a pour but de produire, cueillir et commercialiser la truffe. Il y a environ 20 000 trufficulteurs en France. Donc une truffière, c'est l'endroit où l'on cultive la truffe.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous rappeler un peu peut-être l'historique de la truffe, l'historique du produit ?
Donc la truffe est appréciée depuis l'Antiquité. Elle a été considérée comme le produit de la fusion de trois éléments, foudre, eau et terre. À l'époque, on l'appelait terra tuber. En France, la truffe apparaît pour la première fois sur la table de François Ier. Elle vient d'un petit village à côté de Dijon en Bourgogne. Au début du XXIe siècle, le premier département producteur est le Vaucluse.
D'accord, et aujourd'hui, du coup, on en a beaucoup près de chez nous.
Oui, pas mal, oui.
Ouais. Plutôt dans les gorges du Tarn.
Oui.
Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'une truffe ? C'est un petit peu une question un peu bête, mais peut-être qu'il y en a certains qui ne le savent pas.
La truffe, c'est un champignon souterrain comestible. Ce champignon est en symbiose avec l'arbre.
D'accord, donc il vit vraiment avec l'arbre.
Oui.
D'accord, et ça ressemble à quoi finalement ?
Donc c'est un champignon qui pousse sous terre de forme assez arrondie, noir à l'extérieur et noir à blanc à l'intérieur. Il faut savoir qu'il existe plus de 20 variétés de truffes dont la tuber melanosporum, surnommée le diamant noir, et la tuber brumal. Donc la tuber melanosporum peut être utilisée aussi bien crue que cuite. Si elle ne se conserve que 15 jours fraîche, elle peut cependant être facilement congelée ou mise en conserve. La truffe brumale se confond facilement avec le diamant noir. De même apparence, elles dégagent toutes les deux un parfum fort et sont récoltées en même temps. Cependant, il est facile de distinguer la tuber brumale par son... une écorce qui se décolle facilement, sa chair gris foncé et ses veines blanches plus larges, sa petite taille, donc plus petite qu'un œuf, sa forte odeur, et elle a un goût très poivré et un peu sucré. Donc la truffe se consomme crue ou très peu cuite. En effet, la cuisson détruira ses arômes volatiles. Ajoutez-la donc à la dernière minute dans vos plats.
Ouais, c'est très bien ça. Et toi, t'en as déjà goûté, toi, du coup ?
Oui, j'en ai déjà goûté.
Avec un trufficulteur ?
Oui.
Ouais. Quand faut-il ramasser la truffe ?
Entre mi-novembre et mi-fin. Entre mi-novembre et fin mars.
Entre mi-novembre et fin mars. Donc là, on est totalement dans la période pour ramasser les truffes.
Oui.
Ok. Et comment on la ramasse ?
On a l'habitude de voir les truffes ramassées par les cochons, mais aujourd'hui, on les ramasse généralement avec un chien ou avec les mouches, quasiment plus avec un cochon.
Ah, donc on peut ramasser avec des mouches, alors, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que les mouches, c'est un peu bizarre.
Donc la présence de nombreuses mouches, Elomyssa, elle se nomme comme ça, sur une surface indique qu'il y a de la truffe. Donc lorsque la truffe sera bien localisée, on la marquera d'une brindille, cela pour toute la truffière. On pourra ensemble les ramasser une à une. Donc ce mode de recherche n'est pas recommandé pour les grandes exploitations.
D'accord, donc c'est plutôt finalement pour les petites exploitations, on peut faire à partir de la mouche. Et pour les plus grosses exploitations, donc soit le cochon mais qui est plus fait aujourd'hui, ou alors le chien.
Oui.
Et le chien, comment ça se passe ?
Donc en fait, le chien, il cherche les truffes afin de faire plaisir à son maître, mais également par gourmandise. Lorsqu'il a trouvé la truffe, le maître doit le récompenser, mais peu pour que la bête ait envie de recommencer.
D'accord. Et si moi, alors, je veux cultiver de la truffe, par exemple, comment je m'y prends ?
Tout d'abord,
si j'avais un terrain, bien sûr.
Oui. Tout d'abord, il faut choisir le terrain ayant un sol calcaire. Ensuite, il faut préparer le terrain, puis choisir les plants truffiers qui conviennent au mieux au terrain en utilisant des plants de préférence de 1 ou 2 ans. Il faut également avoir une gestion de la parcelle à long terme, c'est-à-dire choisir le nombre d'arbres à l'hectare, les différents apports, tourbe, dolomie, entretenir le sol pour avoir une meilleure aération et si possible irriguer. Le travail du sol se fait au printemps, mars-avril, après les récoltes et avant l'apparition des premières truffettes.
Et comment on peut bien produire ?
Le choix de la parcelle est un critère important car pour que la truffe puisse se développer, il faut un terrain calcaire. Ensuite, il faut préparer son terrain, préparation du sol, plantation, aménagement, faire des apports. Donc il existe différents arbres truffiers. Donc le chêne pubescent, chêne sessile, chêne pédonculé, chêne blanc, chêne vert, noisetier, pin noir d'Autriche, châtaignier. Et enfin, apporter des soins tels que faire des apports, irriguer, travailler le sol.
D'accord, et le coût de la truffe, finalement ?
Son coût dépend de la qualité, de la variété, de leur poids ou où on les achète.
D'accord, donc on n'aura pas un prix... Tu nous donnes pas de prix.
Pas de prix exact.
Non, pas de prix exact. Bon, on ne saura pas.
C'est tabou.
C'est tabou. Très bien. Et quelle est la suite de ton stage, du coup, là ? Qu'est-ce que tu vas faire pour la suite ?
Je vais donc aller rencontrer des trufficulteurs qui le souhaitent afin d'améliorer mes connaissances sur la truffe, ainsi que pour avancer sur mon étude en leur demandant de répondre à mon questionnaire. Les questionnaires seront bien sûr anonymes et traités globalement, non de façon individuelle.
D'accord. Donc si des trufficulteurs sont intéressés, ils peuvent peut-être t'appeler.
Oui.
Donc, je donne peut-être le numéro. Donc 04 66 44 03 92 et vous demandez Océane Ferland. Le plus intéressant, c'est que c'est des trufficulteurs notamment qui produisent déjà, parce que c'est une étude sur les trufficulteurs qui produisent. Voilà, mais c'est toujours intéressant, nous, d'avoir des contacts avec des trufficulteurs. Merci beaucoup, Océane, pour toutes ces informations. Tu viendras peut-être nous donner les résultats de ton étude fin juin. Je ne sais pas si...
Oui, avec plaisir.
S'ils souhaitent venir. Voilà, donc moi, je vais peut-être aller m'acheter une petite parcelle pour mettre des chênes truffiers. On verra. Avant que je passe la parole à François, la pause musicale, ce sera... Aujourd'hui, Dom la Nena et Rosemary Stanley avec une chanson qui s'appelle Sega Jaco pour mettre un tout petit peu de soleil dans notre hiver.
Ce matin, m'y réveille au milieu de l'océan Indien. Hier encore, moins l'été dans le joli pays oreille. Pourtant, n'a point miracle. Ici, moi, elle est vraiment très bien. Moi, la trouve mon rogaille, la morue. chérie, qu'elle. L'île a pas changé, elle est toujours pareille pour raconter des histoires créoles. Quand l'île cause trop vite, l'île est libre et gay, à cause ça même, l'île est drôle. Mais fais attention, ennuie pas l'île trop, l'île n'a pas le temps de discuter. Quand l'île cause sur l'île, cause pas dans son dos, va courant qu'elle souriait. Monsieur Jaco, il peut dire qu'il connaît un ou n'a point de bouc, ici il est plus gentil qu'où. Sur la place chauffe, nous l'a grandi à côté. Ça me m'y fait notre l'amitié.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Bartas et de l'émission Des fermes et des arbres. Donc on va enchaîner avec le sujet qu'on vous avait annoncé en introduction. Donc les effets du changement climatique sur le Massif Central. Et pour cela, donc, je vais interviewer Richard Julien qui a participé à une étude à l'échelle du Massif Central pour mesurer justement les effets du changement climatique et surtout quelles propositions d'adaptation pour l'agriculture et la forêt. Alors, je suis avec Richard Julien. Bonjour Richard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur Radio Bartas. Alors, avec vous, je souhaiterais qu'on présente les résultats d'un projet qui a été conduit à l'échelle du Massif Central. C'est un projet qui s'intitule RICMAC. Alors, RICMAC, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Réseau d'information changement climatique Massif Central. Et ce projet a visé à établir un état des lieux des connaissances des impacts du changement climatique dans les domaines agricoles et forestiers notamment, afin de proposer des pratiques d'adaptation, mais aussi de constituer un réseau d'informations à destination d'une multitude d'acteurs. Alors Richard, vous avez contribué à la réalisation de ce projet au sein de l'ARP Midi-Pyrénées. Donc l'ARP, c'est l'Agence régionale de développement durable de la région, et une agence au sein de laquelle vous avez donc été chargé particulièrement d'animer ce projet. Alors je voudrais que vous nous présentiez en premier lieu le contexte qui a conduit à vouloir produire cette étude. Et je crois que vous n'étiez pas seul non plus à piloter le projet, c'est bien ça ?
C'est bien cela. Donc ce projet a été coporté par deux agences régionales pour l'environnement. L'ARP Midi-Pyrénées, Agence régionale pour l'environnement Midi-Pyrénées, une agence de développement durable, et également Rhône-Alpes Énergie Environnement, donc sur la partie environnement. Le contexte, et même l'historique, c'est un constat autour des années 2010 de vouloir contribuer, impulser une dynamique changement climatique, une dynamique de réflexion et de partage d'informations à l'échelle du Massif Central à partir de deux agences qui ont impulsé également de leur côté sur les massifs montagneux des Alpes et des Pyrénées des initiatives similaires.
D'accord, donc les objectifs recherchés, c'était de pouvoir voir concrètement quels sont les impacts du changement climatique sur les massifs montagneux.
L'objectif consistait à vouloir renforcer les connaissances des acteurs locaux sur les impacts du changement climatique et progressivement accompagner également les réflexions, les études vers les pratiques d'adaptation.
D'accord. Donc quand vous parlez d'acteurs locaux, qui ça englobe concrètement ?
Alors, les acteurs locaux, ça englobe notamment les acteurs publics, que ce soit les représentants de l'État qui contribuent derrière à la programmation, à la définition de schémas et de programmes, mais également les collectivités, les acteurs territoriaux, que ce soit les collectivités, villes, départements, régions, les territoires des parcs naturels régionaux également, mais également les acteurs, les professionnels de certaines filières, les acteurs économiques également, donc que ce soit donc les chambres consulaires qui représentent certaines filières, mais également les professionnels, les entreprises, les représentants d'agriculteurs également aussi, les associations également, et voilà, donc un ensemble d'acteurs, également les acteurs scientifiques, sont concernés en tout cas par cette mobilisation pour faire un état des lieux des connaissances, voir dans quelle mesure il y a des besoins d'approfondir certains domaines d'études, de recherche, pour répondre un peu mieux aux besoins des acteurs locaux pour renforcer leurs connaissances et voilà, leurs besoins d'expérience ou d'expérimentation.
D'accord, donc c'est une étude qui avait démarré donc en fin 2014, donc qui a duré à peu près un an.
Alors concernant le projet effectivement sur le Massif Central, c'est une étude qui a duré 13 mois et qui a, c'est une démarche qui a vraiment voulu s'inscrire dans une démarche de collaboration, de co-construction avec les acteurs locaux sur différentes thématiques. Donc dans un premier temps, on a proposé donc de constituer un comité de suivi technique avec les différents partenaires techniques et financiers du projet et en associant progressivement des acteurs clés engagés sur le Massif Central, sur cette dynamique-là. Cette démarche a permis d'identifier des thématiques, étant donné la durée du projet, 13 mois, c'était limité. On n'a pas pu embrasser l'ensemble des thématiques. Il a fallu faire un choix. Et le choix s'est porté sur les principales activités économiques du massif, à savoir la filière agricole, la filière sylvicole au niveau des forêts et également du tourisme. L'idée, c'était également de prendre en compte d'autres thématiques transversales, que ce soit l'eau, que ce soit également d'ailleurs la biodiversité et les risques naturels et la santé. Voilà les quelques thématiques en transversalité aux trois premières filières.
D'accord. Donc sur la démarche, il y a une volonté vraiment de co-construire cette étude avec les acteurs du territoire. Quelles ont été les grandes phases de travail ?
Alors, les grandes phases de travail, on a commencé dans un premier temps par un recensement de la littérature, des travaux de recherche, des acteurs également, pour pouvoir faire une première analyse, une première synthèse de notre côté des connaissances, pour également identifier les acteurs à rencontrer, les acteurs clés à mobiliser et à impliquer tout au long de la démarche. C'était donc la première étape. Deuxième étape, ça consistait par des entretiens auprès des acteurs clés, des entretiens avec des acteurs scientifiques, les acteurs du territoire, les collectivités, les parcs naturels régionaux, quelques acteurs également professionnels, associatifs, un sondage pour approfondir certains éléments. Et on est ensuite passé dans cette troisième phase d'atelier territoire. Un premier atelier, une rencontre scientifique interdisciplinaire avec la communauté scientifique pour partager les connaissances, renforcer et identifier une synthèse et obtenir une synthèse des connaissances actuelles, les impacts observés à ce jour, qui nous ont permis ensuite de présenter ces éléments-là lors de différents ateliers transversaux avec les trois filières, les acteurs locaux. On est allé dans le Massif Central à la rencontre, au plus proche des acteurs, selon des zones où les acteurs sont confrontés à peu près aux mêmes conditions climatiques, aux mêmes impacts climatiques. Donc on ne s'est pas arrêté sur les échelles régionales, mais plutôt sur les échelles géographiques, on va dire à grande tendance climatique. Donc là, des ateliers transversaux et également un atelier spécifique sur l'agriculture à Mende qui s'est déroulé donc le 9 juillet dernier. Voilà quelques éléments sur les ateliers. Et enfin, on a terminé avec un séminaire qui a eu lieu le 8 octobre dernier, où on a pu partager les résultats de tous ces travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ces ateliers. Et on a pu approfondir également des réflexion sur quelles pistes possibles pour renforcer les connaissances, notamment à travers un réseau d'information. Donc voilà quatre grandes étapes du recensement, des entretiens, des ateliers et un séminaire de travail pour approfondir tous ces éléments-là.
Oui, donc la volonté était bien de travailler à l'échelle du Massif Central, mais aussi de prendre en compte les différentes grandes zones géoclimatiques, parce qu'entre le Limousin et les Cévennes, par exemple, ce sont certes deux territoires de moyenne montagne, mais qui sont quand même assez différents. Et donc si on aborde maintenant les résultats concrets là, qui sont ressortis par rapport aux effets du changement climatique, qu'est-ce qu'on peut retenir principalement ?
Alors, ce travail, ce projet consistait à réaliser un état des lieux des connaissances. En aucun cas, il a la prétention d'apporter une exhaustivité et une connaissance fine sur les impacts du changement climatique. On est également sur une échelle de temps, quand on étudie le climat et les impacts climatiques, on est sur une échelle de temps de 30 ans. Donc on est loin de l'observation météo. Donc on est vraiment dans un autre regard de ce que l'on a habituellement et on dépasse, on va dire, les capacités de perception de notre... à l'échelle humaine. À l'échelle humaine, on ne voit pas ces perceptions-là, on n'est pas sur une échelle de temps de perception de 30 ans. Donc on a besoin de se baser sur des observations. Et voilà, donc du coup, on a essayé de faire un état des lieux de tout ça. Donc les résultats de ce projet a permis de faire un premier état des lieux, non exhaustif, mais un premier état des lieux, des connaissances qui peuvent être utiles à l'échelle du Massif central. Et on a essayé même de pousser cette connaissance par zone géoclimatique, comme vous le disiez. Donc on a identifié 4 zones géoclimatiques sur le Massif central, une partie ouest, on va dire une partie plutôt océanique, une partie nord-est continentale, une partie centrale montagne, et enfin une partie plutôt sud massif, plutôt une partie donc climat méditerranéen. Voilà, donc du coup on a réussi à faire un état des lieux global, puis on a essayé avec les acteurs locaux de préciser, de compléter, de préciser voilà, les impacts constatés par les scientifiques, mais plutôt à partir également de perceptions des acteurs locaux. Donc on a un double état des connaissances qui sont plutôt actées, les scientifiques, et des connaissances qui sont perçues et qui n'ont pas le même niveau de fiabilité que la connaissance scientifique, mais qui vaut quand même une grande importance, parce qu'à partir de là, on peut aussi quand même approfondir, travailler, identifier des pistes de recherche complémentaires. Donc voilà, donc on a obtenu un ensemble de connaissances scientifiques et de perceptions sur les impacts. On a identifié également des indicateurs selon les différentes thématiques et les travaux déjà réalisés par différents observatoires au niveau national qui pourraient inspirer également des travaux à venir sur le Massif central. On a identifié également des chaînes d'impact, c'est-à-dire qu'on a identifié des impacts climatiques qui viennent derrière impacter les ressources naturelles, qui viennent elles-mêmes impacter les activités humaines. Donc on a essayé d'identifier comme ça à chaque étape, selon une analyse un peu systémique, voilà quels sont les principaux impacts.
Parce qu'à
l'échelle géographique, c'est quand même compliqué, même sur une zone, par exemple, sud, méditerranéenne ou nord-est du massif, c'est déjà une échelle très fine, même peut-être un peu trop par moment, pour une analyse, on va dire, impact climatique. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, avec les connaissances, les travaux sont généralement plutôt du niveau national ou du CARES de la France. On n'est pas à une échelle comme une région pour l'instant. Ça arrive avec les travaux des observatoires.
Du coup,
état des lieux des connaissances dans un premier temps, perception dans un deuxième temps, identification de quelques pratiques d'adaptation également, et surtout ensuite, en termes de résultats, c'est le troisième point important de ce projet, c'est un travail de co-construction avec les acteurs locaux pour dire ben voilà, de quoi j'ai besoin moi pour renforcer mes connaissances, de quoi j'aurais besoin à partir d'un réseau d'informations sur lesquels on pourrait tous contribuer. Donc quelles sont mes attentes, quels sont mes besoins pour agir au sein d'un réseau d'informations, et là on a pu travailler avec les acteurs pour définir des grandes activités, des grands axes de travail sur le Massif central à destination des acteurs locaux. Donc un réseau d'informations défini par les acteurs locaux pour les acteurs locaux.
D'accord. Et donc dans cette étude, donc vous parliez d'indicateurs, notamment on peut trouver des éléments par exemple sur l'observation de la hausse des températures moyennes, l'évolution des précipitations par exemple. Donc on peut retrouver ces éléments-là dans cette étude. Et puis donc après, c'est à chaque acteur finalement d'utiliser ces outils pour essayer de faire évoluer ses pratiques en quelque sorte.
Dans les résultats, on a essayé de synthétiser les principales connaissances disponibles à ce jour. De faire le lien également un peu comme un portail pour dire tel acteur, tel travaux, tel laboratoire de recherche a obtenu ces résultats-là. Les voici. Voici sur telle région ce qu'on a pu identifier. Voici les sources d'informations. L'idée, c'était vraiment de faire un premier travail technique d'identification, l'état des lieux, des connaissances et de faire le lien avec qui possède l'information pour permettre aux personnes et aux acteurs de se connecter, de se relier et d'approfondir s'ils le veulent. Donc on a pu produire un document, un rapport technique relativement synthétique d'une cinquantaine de pages qui permet d'ailleurs de balayer et de revoir un tout petit peu par thématique, agriculture, forêt, tourisme, un petit peu c'est les différents éléments qu'on a pu obtenir à ce jour. C'est un document évidemment qui est disponible et on en reparlera peut-être à l'occasion où on transmettra les coordonnées avec grand plaisir. Il est disponible et téléchargeable pour tout le monde.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on on mesure justement les effets du changement climatique sur le domaine agricole, sur l'évolution aussi des forêts. Également, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les impacts que ça peut avoir par rapport à l'activité touristique. C'est vrai qu'on n'a pas forcément cette clé d'entrée au départ quand on pense changement climatique. Et ça, en tout cas, ça, l'intérêt, c'est de pouvoir nous interroger en fait sur la manière effectivement de nous adapter à ces changements. Et du coup, alors à l'issue de cette étude, aujourd'hui, quelles sont les comment vous imaginez un petit peu les suites, les perspectives ?
Au niveau des perspectives, donc suite à ces travaux de co-construction avec les acteurs, nous avons donc pu définir différentes activités. L'idée, ce serait de pouvoir proposer, de pouvoir mettre en place, on va dire, une phase expérimentale d'un réseau d'information pour pouvoir approfondir certaines thématiques, pouvoir fédérer aussi également, proposer et animer certaines thématiques en lien avec des acteurs qui sont déjà engagés sur ces thématiques-là. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, le changement, impulser une démarche de réflexion à l'échelle du Massif central sur le changement climatique, c'était un peu une première, mais il existe déjà des acteurs engagés, des acteurs autour de la biodiversité, des acteurs autour de l'énergie, autour des activités économiques, les agriculteurs également, les représentants agricoles sont déjà engagés, notamment et surtout ceux de la forêt. L'idée, c'était plutôt de l'originalité de ce projet, c'était de proposer une démarche transversale qui permette aux acteurs entre eux, entre différentes filières, de se rencontrer, d'échanger ensemble, de partager également leurs connaissances. Et ça, c'était également, ça a été très apprécié. Donc l'idée de ce réseau, c'est consiste à continuer à proposer une démarche, on va dire, qui soit transversale, qui soit un peu une sorte de portail qui permette d'ailleurs de partager l'information, d'accompagner certains acteurs à mieux travailler ensemble entre les acteurs de la recherche et les acteurs locaux ou certaines filières, de faciliter la circulation de l'information à travers un réseau d'information. Ce réseau d'information, c'est cette idée de pouvoir l'expérimenter dans une phase bêta, pourquoi pas dans l'année durant l'année 2016. Et on a identifié différentes pistes, que ce soit sur renforcer l'information et sur le changement climatique et ses impacts, continuer à creuser cette piste-là, contribuer modestement sur des projets thématiques qui soient structurants ou transversaux, comme je vous le disais, contribuer également au transfert des connaissances, donc comment améliorer, renforcer, on va dire, le partage des connaissances existantes auprès des acteurs qui sont eux-mêmes, on va dire, des relais vers d'autres publics. Contribuer également à la visite du massif au niveau du changement climatique à l'échelle nationale, voire même internationale, au niveau européen. Donc pour permettre à ce que les acteurs locaux, on puisse faire remonter, on va dire, des besoins, des attentes et des besoins d'études, notamment à l'échelle plus globale, et que le niveau plus global national permette, en descendant, d'apporter aussi des connaissances qui peuvent aider aussi les acteurs locaux à ce niveau-là. Oui. Voilà, et enfin une autre thématique autour de pouvoir servir de structure ou en tout cas de dispositif qui soit capable d'alerter éventuellement les scientifiques ou les collectivités sur des dangers ou des enjeux majeurs qu'il faudrait peut-être creuser à partir de certains dispositifs. Voilà, une sorte de... Et puis, évidemment, proposer des informations. L'ensemble de ces recommandations sont issues des travaux avec les acteurs locaux et le rapport qui a été remis aux partenaires qui sont, on va dire, des acteurs fédérateurs, ce sont les régions qui ont soutenu ce projet, avec notamment un financement européen, fédère sur ce projet-là, avec l'aide de l'État et du CGET, l'ex-DATAR, et l'appui technique de toutes les régions. Voilà, donc c'est tout ce travail-là et l'appui de certains acteurs clés qui nous a permis d'obtenir ces résultats-là, et ces résultats-là ont été ensuite livrés. La semaine dernière, elles ont été livrées auprès des partenaires financiers et techniques pour qu'ils puissent réfléchir, étudier les possibilités d'une expérimentation, d'une mise en place d'un réseau, donc à partir de 2016, en fonction des possibilités.
D'accord. Eh bien, écoutez, c'était très complet en tout cas, merci beaucoup. Une question concrète, où c'est qu'on peut trouver les résultats de cette étude ?
Alors, les résultats de cette étude sont disponibles sur les deux sites internet. internet des agences régionales. Donc, il suffit de taper à l'adresse association-arp-mip.com ou simplement sur un moteur de recherche association ARP Midi-Pyrénées. Et la même chose au niveau de Rhône-Alpes Énergie Environnement. Ou encore plus simplement moteur de recherche en tapant réseau d'information, changement climatique, massif central. Et à partir de ces mots-clés-là, vous tomberez directement sur, voilà, là, en première page, le lien vers la page et les liens pour télécharger les documents et toutes les synthèses des travaux du projet.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Richard, pour cette présentation. Et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de la continuité de ce travail qui est très, très intéressant. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de ça à Radio Bartas. À très bientôt. Beaucoup. Merci, au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Voilà, donc c'était l'interview de Richard Julien. Alors, comme il l'a dit, vous trouverez sur l'étude tout un tas d'éléments parlant des conséquences, des effets du changement climatique dans nos régions et particulièrement en Lozère et en Cévennes. Alors, juste pour vous donner quelques éléments quand même, dans notre région, là, on remarque une forte augmentation des températures en moyenne de 2 degrés là, sur les 30 dernières années. Au niveau des précipitations, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont quand même en diminution dans le sud et de plus en plus irrégulières et moins abondantes en été. Ce qui est noté, c'est que l'évolution du climat de la Lozère évolue d'un climat tempéré humide à un climat subméditerranéen. Donc c'est assez significatif. Sur les conséquences plus concrètes par rapport à l'agriculture et l'élevage, ce qu'on observe, c'est une baisse quand même des rendements en fonction des espèces et des zones concernées. Une augmentation aussi de l'incertitude de la production de fourrage qui est due à la variabilité interannuelle de la température. Concernant la vigne, par exemple, on remarque une avancée des dates de récolte. Ce qu'on peut dire encore, c'est que au niveau des fourrages, il y a une augmentation du rendement des prairies en altitude, alors que ce rendement est plutôt en baisse dans le sud-ouest, et ce qui a aussi pour effet de réduire la qualité du fourrage. Concernant la forêt, on observe une modification du cycle annuel de développement des arbres, notamment avec un avancement et un allongement de la saison de végétation. Par exemple, sur les 30 dernières années, là, concernant le hêtre, on observe un avancement de 15 jours. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que globalement, il y a une modification de la répartition des espèces d'arbres, une propagation et un développement des insectes ravageurs et pathogènes qui engendrent du coup un affaiblissement des arbres, une limitation de la croissance et aussi une surmortalité et donc un dépérissement de certaines essences. Voilà. Et si vous voulez avoir plus d'éléments précis sur ces effets, je vous invite à consulter cette étude. Voilà, donc on en a fini pour ce quatrième numéro des fermes et des arbres. On va donc se quitter et on vous donne rendez-vous, Nathalie, le mois prochain.
Le mois prochain, en février.
Voilà, pour un nouveau numéro.
Voilà.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. C'était Des fermes et des arbres, à retrouver une semaine sur deux, le jeudi à 13h30. À bientôt.